le sommet est important parce que c'est quand même le tout premier sommet de cette année du G5 Sahel et il intervient dans le contexte où on a quasiment bouclé le budget qu'il faut pour lancer la force du G5 Sahel. À la suite de la conférence de Paris, des annonces de financement additionnels ont été faites, notamment par les Émirats et par l'Arabie Saoudite, ce qui a permis d'arriver presque au budget et il est prévu que justement, au premier trimestre de cette année, que les premières opérations de la force du G5 Sahel soient lancées. Donc, c'est dire que le sommet de Niamey revêt toute son importance à la fois sur le plan politique et sur le plan militaire, puisque il va être question justement de finaliser les modalités du lancement de ce G5 Sahel. Il est aussi prévu qu'il ait un nouveau président à la tête de ce G5 Sahel,
Oui, Mamadou
qui
Issoufou, hein.
visiblement c'est le président Issoufou du Niger qui prendra la succession de son homologue malien. Et compte tenu de la situation qui prévaut aujourd'hui à la frontière entre le Niger et le Mali, puisque comme vous savez, côté Niger, quasiment la partie nord-ouest, les régions de Tillabéri et de Tawa sont sous l'état d'urgence, qui sont frontalières avec le Mali. C'est clair que ce sommet a une importance à la fois pour l'organisation et pour le président Issoufou qui en devient le président.
Oui, on a appris également que votre compatriote Mamman Sidiku, qui était l'ancien représentant du EG de l'ONU en RDC, représentant de la MONUSCO, Mamman Sidiku risquerait d'être nommé secrétaire permanent du G5 Sahel. Est-ce que vous pensez qu'il aura la carrure pour mener à bien sa mission?
Oui, Mamman Sidiku est un homme d'expérience. Avant même d'aller à la MONUSCO, il a été le représentant de l'Union africaine en Somalie, il a été le patron de l'AMISOM, qui a une mission extrêmement difficile. Il a aussi été l'ambassadeur du Niger à Washington. Avant tout cela, il avait été ministre des Affaires étrangères sous le président Barré. Il a l'expérience internationale qu'il faut. Et je pense que ce qui pourrait faire le succès de sa mission, c'est aussi le travail extrêmement important qui a été accompli par son prédécesseur Nadi Mohamed. Nadi Mohamed est celui qui a porté le G5 Sahel, qui l'a lancé, qui a, malgré les difficultés du début, a pu convaincre les réticences d'un certain nombre de pays et a su trouver aussi l'équilibre avec l'Algérie, qui n'était pas dans le G5 Sahel et qui ne voyait pas forcément d'un bon œil la création du G5 Sahel. Tout cela, toutes ces difficultés ont pu être surmontées par le prédécesseur de Mamman Sidiku, si il venait à être nommé, ce qui facilite sa tâche. Et lui-même, ayant des relations très étroites avec un certain nombre de personnalités françaises, je pense que ça pourrait l'aider dans l'accomplissement de sa mission.
Mais beaucoup d'analystes critiquent un peu la manière avec laquelle il a conduit la MONUSCO en RDC. Vous ne craignez pas l'immobilisme également dans le cadre du G5 Sahel?
Non, honnêtement, c'est presque un constat que le passage de Mamman Sidiku à la MONUSCO n'a pas été le plus brillant de poste qu'il a occupé dans sa carrière. Comme je l'ai dit, à la MISOM et à d'autres endroits, il a été beaucoup plus brillant que ce qu'il avait fait à la MONUSCO, puisque sur le plan politique, les choses n'ont pas avancé. Et sur le plan aussi militaire, la MONUSCO n'a pas fait preuve d'une grande efficacité. Mais je considère que c'est peut-être cet échec à la tête de la MONUSCO est lié aussi au contexte. Le contexte congolais est un contexte très difficile. Même s'il avait eu la volonté, je pense que ce n'aurait pas été facile. J'ai bon espoir qu'il puisse utiliser les relations avec le soutien politique dont il bénéficiera et aussi avec le fait que la France compte beaucoup sur le G5 Sahel. Il pourrait avoir les coudées franches pour pouvoir accomplir sa mission. Je présume que ses résultats pourraient être meilleurs à la tête du G5 Sahel qu'à la MONUSCO.
Oui, en ce moment, beaucoup de bailleurs ont promis financer cette force conjointe du G5 Sahel. Pensez-vous vraiment que Mamman Sidiku, s'il était nommé, pourra justement matérialiser toutes ces promesses au profit de cette structure?
Oui, le défi pour lui, c'est tout le défi. Le défi pour lui, c'est de pouvoir traduire les annonces de financement en décaissement concret. Parce que par le passé, il est arrivé très généralement qu'on fasse des annonces de financement, mais quand on vient au décaissement, ceux qui ont fait ces annonces soient absents. Donc tout le défi pour Mamman Sidiku aujourd'hui sera de rendre concrètes ces annonces de financement. Parce que, à la différence de ce qui peut se passer lorsqu'on fait les tables rondes des bailleurs de fonds où chacun annonce des dizaines, des vingtaines de milliards qui ne sont jamais décaissés. La différence, c'est qu'on a besoin de cet argent tout de suite. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des troupes sur le terrain sans que toute la chaîne de commandement logistique, sans que les questions d'approvisionnement, les questions de carburant, les questions d'équipement soient réglées. Et Mamadou Dikou, aujourd'hui, a tout ce défi en face de lui. Mais je pense que, à la fois parce que, vous savez, il y a aujourd'hui une sorte de consensus sur la nécessité de mettre en place, parce que la situation sécuritaire est en train de se dégrader au Sahel. Et comme les pays occidentaux, des pays comme la France, des pays comme même l'Allemagne dernièrement, des pays, d'autres pays aussi comme les Pays-Bas, sont engagés au Sahel et ont compris que ce qui se passe au Sahel dépend de la sécurité internationale, de la sécurité du reste du monde. Et je pense que les décaissements vont se faire beaucoup plus facilement pour le G5 Sahel que pour la force mixte multinationale. Ou comme vous vous souvenez, l'Union européenne a produit 50 millions d'euros à la force mixte, d'autres pays ont produit, mais ces contributions ont pris du temps à se mettre. Mais à la différence de ce qui s'est passé pour la force mixte multinationale qui combat Boko Haram dans les lieux du Dakar, je pense qu'ici, au Sahel, des procédures vont être beaucoup plus flexibles et il y a une possibilité que cet argent soit décaissé. Maintenant, il reste le défi de la gestion de cet argent, parce que très souvent, aussi, c'est la question de la gestion de l'argent qui est débloqué et qui amène les bailleurs de fonds à être réticents. Quand on voit les sommes énormes qui sont débloquées pour la lutte contre Boko Haram, notamment au Nigeria, et qui n'arrivent jamais, il y a lieu d'avoir des réticences. Et tout le défi pour le moment, du coup, sera d'apporter des garanties aux bailleurs de fonds que l'argent sera effectivement destiné à la lutte contre Boko Haram et non à enrichir des élites politiques comme on le voit souvent dans certaines expériences en Afrique.